Seul, je vais vite.
Ensemble, je vais plus loin.
Parce que la relation,
c'est essentiel. Une émission d'Émilie Vialette.
De quoi t'aurais besoin pour pouvoir avancer?
Ok, c'est quoi ta demande? De quoi t'as besoin?
Essentiel, l'émission qui vous emmène au cœur des relations humaines. Un paradoxe est, je cite, une association de deux faits, de deux idées contradictoires. Si on prend une image, on pourrait dire que le paradoxe est comme une ligne de crête au sommet d'une montagne. Chaque face est opposée à l'autre, et pourtant, il existe un espace, ténu certes, mais qui relie les deux versants et sur lequel il est possible de mettre un pied devant l'autre. Puisque le paradoxe est donc, paradoxalement, un objet réel et pensable, je vous en propose un de choix aujourd'hui, celui de l'holacratie. L'holacratie est un mode de gouvernance des organisations, que ce soit des entreprises, des associations, des collectifs, qui pose des règles de fonctionnement dont la spécificité de ces règles est d'être centrée sur l'intérêt de l'organisation, et qui donc, a priori, ne porte pas grande attention aux humains qui les composent. Et pourtant, serait-il possible d'imaginer qu'en se recentrant sur l'intérêt de l'organisation, on améliore paradoxalement la vie des humains qui la composent ? Existerait-il bel et bien une ligne de crête entre les deux ? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Alyosha Yordanov, coach en holacratie et associé de la SCOP Semaoui. Alyosha, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Alyosha, est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots ce qu'est l'holacratie ?
Alors. Donc, holacratie, c'est un système de gouvernance. Ça veut dire que c'est un peu comme un système d'exploitation d'un ordinateur. C'est le système qui va faire tourner la machine dans une organisation. Donc, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une association, un collectif qui porte un projet, n'importe. C'est un système qui va faire fonctionner l'organisation au service de sa raison d'être et qui repose sur certains grands changements de paradigme par rapport aux méthodes un peu conventionnelles d'organisation, et notamment en cherchant à expliciter les attentes, les autorités, les rôles, etc. En faisant le pari que ce qui est explicité est plus facile à ajuster, à modifier. Et puis, c'est un système d'organisation qui va vraiment soutenir l'autonomie des personnes dans l'organisation pour leur permettre de prendre des décisions de manière très autonome dans leur rôle, en évitant un petit peu les mécanismes de jeu de pouvoir qu'on connaît assez classiquement dans les systèmes managériaux classiques. Donc voilà, l'expression consacrée, c'est de parler de self-management dans le système de gouvernance en holacratie.
Quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir holacratie ?
Alors, holacratie, j'avais eu un premier contact avec, au tout démarrage de mon entreprise, donc on était en 2008, mais à ce moment-là, ce n'était pas un système qui m'avait vraiment séduit. Bon, d'abord, j'entreprenais seul au départ, donc je n'avais pas vraiment de problématique d'équipe, etc. Et puis, je pense qu'à l'époque, Holacracy était un système qui n'était pas encore aussi mature que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, j'ai créé cette entreprise sans. Et puis, 9 ans après, on a pris la décision avec les salariés de la société de se transformer en coopérative. Donc, on est devenus tous salariés associés. Donc là, on était 7 salariés associés. Et à ce moment-là, donc nous, on avait vraiment une culture d'agiliste. Ça veut dire qu'on avait utilisé le manifeste agile un peu comme socle de grands principes de fonctionnement. Ce manifeste agile, c'est un petit document qui tient en une page, hein, qui pose un peu des grands principes d'organisation, mais plutôt sur la strate gestion de projet et fonctionnement dans le travail, dans le but de savoir s'adapter assez facilement, sans mettre de pression sur les équipes, d'avoir des bons mécanismes d'intelligence collective dans l'équipe. Simplement, jusqu'à ce moment-là, en fait, on n'avait pas eu à traiter des questions de pouvoir, d'autorité, d'argent, des choses comme ça. Et en fait, en se transformant en SCOP, on s'est dit, bon, ben là, on va devenir tous des associés, on va avoir beaucoup de sujets à questionner, à travailler ensemble, et il n'était pas question qu'on tombe dans un système où tout le monde se mêle de tout, tout le temps, et il faudrait que tout le monde soit d'accord chaque fois qu'on veut lever le petit doigt. Donc, on voulait avoir un système très autonomiste, et en même temps qui nous permettent de garder cette super synergie d'équipe qu'on avait déjà à ce moment-là. Et c'est là que je me suis un peu plongé sur les systèmes de gouvernance qui pouvaient être expérimentés dans le monde à droite et à gauche. Et je suis retombé sur Holacracy. J'ai lu la Constitution. On en était à la version 4.2 à ce moment-là, c'était il y a 5 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. C'était pile dans notre besoin. Donc, nous, on a adopté l'holacratie en démarrant par la Constitution, ce qui n'est pas du tout la forme orthodoxe, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas forcément par là que je recommanderais de le faire à des gens qui découvrent. En tout cas, pour nous, là où on en était, à ce moment-là, c'était parfait. Et voilà, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie complètement.
Ça m'amène un peu à la question que je voulais te poser après. Pourquoi as-tu fait le choix de l'utiliser dans ta propre entreprise et quels bénéfices en as-tu retiré ?
Donc, le pourquoi, c'est un petit peu ce que j'expliquais jusqu'avant. C'est-à-dire que dans une coopérative, il y a ce risque qui est un peu lié au fantasme de la SCOP. J'appelle ça comme ça parce qu'il y a un peu cet imaginaire où on se dit tous associés, ça veut dire tous patrons, on peut tous décider, etc. Et puis en fait, dans le tous, dans le collectif, dans le on décide, il y a cette sorte de grande imprécision sur qui et comment on prend les décisions à plusieurs. C'était très clair, par exemple, pour nous que ça ne nous intéressait pas de décider avec un principe majoritaire. De se dire, s'il y en a 4 sur 7 qui sont d'accord, on prend la décision, c'est pas bon, en fait, parce que c'est des modes de décision qui ne permettent pas de prendre en compte la minorité. Et un avis, ce n'est pas parce qu'il est isolé qu'il n'est pas bon. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont des avis un peu décalés amènent quelque chose qui a beaucoup de valeur dans l'intelligence collective. Donc, on voulait vraiment trouver un système qui nous permette de soutenir cette autonomie et c'est à ça que répondait Holacracy. Le fait que ça se conjugue avec le changement de forme légale de l'entreprise, pour nous, c'était vraiment notre calendrier. Et en même temps, j'ai vraiment envie de souligner à cette occasion que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a la grande majorité des gens qui font de l'Holacracy ne sont pas en coopérative. Donc, ce n'est pas deux choses qui vont obligatoirement ensemble. Mais dans notre idée, ces deux choses s'emboîtaient bien et ça correspondait bien à l'idée qu'on se faisait de la SCOP. Donc l'avantage qu'on en tire, c'est d'abord une certaine efficacité de travail. Et si on est efficace dans notre travail, ça veut dire que notre entreprise se porte bien. Ça veut dire qu'on ne mélange pas les tensions interpersonnelles et les tensions opérationnelles. Ça, c'est un truc fantastique qu'amène l'holacratie. Ça veut dire que si un ou une de mes associés... je ne sais pas, fait une erreur dans un de ses rôles, en fait, je m'adresse à un rôle, je m'adresse à une personne dans un rôle. Et ce n'est pas Jeanne ou Sarah ou Thomas qui est un problème en tant que personne, mais c'est bien Thomas dans son rôle ceci ou Jeanne dans son rôle cela qui peut être à la source d'une tension opérationnelle. Et cette distinction-là, elle permet de sauvegarder, je dirais, les relations humaines des tensions de travail. Ça a été vraiment une belle émancipation qu'on a vécue avec l'holacracy.
Tu as en partie amorcé la réponse à la question que je voulais te poser, qui était « Est-ce que l'holacratie permet d'améliorer la relation entre les humains ? Et si oui, comment ?»
Oui, alors en fait, elle est super ta question. Parce que ça me donne envie de poser une question sur la question, c'est-à-dire c'est quoi des relations qu'on améliore entre les humains ? Et là, ça vient toucher le but profond de ce que sert une organisation et donc de sa raison d'être. Parce que je pense que si tu poses la question à une boîte dont le but ultime, c'est de dégager un maximum de dividendes pour ses actionnaires, améliorer les relations, ça veut dire avoir des équipes qui dégagent encore plus de cash. Et améliorer les relations quand on crée une entreprise dans le but d'avoir des relations humaines apaisées, saines et sereines au quotidien, du coup, ça ne fait pas la même chose. Donc, Holacracy, en mettant le système d'organisation au service de la raison d'être de l'organisation, permet de mettre du clair là-dessus, en fait, sur les buts vraiment que l'on recherche. Pour moi, c'était très important en tant que personne source de cette entreprise, en tant qu'entrepreneur, d'arriver à conjuguer, et je reprends ton image de paradoxe de l'introduction, à la fois le projet entrepreneurial, et une boîte, ça doit gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'on doit équilibrer notre bilan, on doit être rentable, c'est une condition d'existence, et en même temps, pour moi, c'est avant tout un projet humain. L'argent est juste un moyen de subsistance, un moyen de faire vivre l'organisation, est loin d'être une fin en soi. Et le but le plus grand pour moi, c'est de construire cet écosystème de paix et de relations saines avec des individus avec qui j'ai envie d'avancer et de faire des choses. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que quand on prend des temps de recul, quand on fait des retraites d'associés, on est capable d'imaginer faire autre chose ensemble. Voilà, l'entreprise n'est qu'un moyen. Et je pense que l'holacratie permet ça. Donc, ça a été une des façons pour moi de construire un système qui prend soin des relations tout en prenant soin de l'organisation.
Dans ce que tu dis, j'entends que pour toi, pour ton équipe, le prendre soin de la relation, prendre soin des humains, c'était un élément important, puisque tu dis qu'il y a à la fois gagner de l'argent et construire un écosystème de paix. Et ça me permet d'aller sur la question que je voulais te poser après, qui était, est-ce que tu penses que toutes les entreprises sont prêtes à utiliser ce genre d'outils ? Est-ce que tu vois des prérequis à son efficacité et des limites à son utilisation ? Et en particulier, est-ce que tu penses que du coup, le prisme de l'intérêt porté à la relation est finalement nécessaire pour que l'outil fonctionne bien ?
Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça, là, je parle de mon expérience et c'est personnellement comme ça que j'ai vécu, ça a été mon chemin. Et comme j'ai mis ce système-là au service de ce but-là, j'en ai tiré des bénéfices là-dessus parce que je crois que c'est un système qui, de manière intrinsèque, apporte à la fois de l'efficacité, de l'efficience, quel que soit le but au service duquel on le met, quelque part, et en même temps, une vraie capacité d'adaptation, d'agilité au sens profond, c'est-à-dire de capacité pour l'organisation à s'adapter à ce qui se passe dans le monde comme il fonctionne aujourd'hui, dans son niveau d'incertitude et de vitesse de changement, etc. Je crois que c'est assez déterminant. Les organismes qui s'adaptent le mieux sont ceux qui survivent le mieux dans un monde qui est instable. C'est aussi vrai pour des organismes vivants que pour des organisations. Quelque part, c'est une façon de voir l'organisation, l'entreprise, un peu comme un organisme vivant. Donc, ce n'est pas un prérequis. Pour moi, c'était central et je pense que ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui font de l'holacratie, qui accordent de l'importance au bien vivre dans leur organisation, mais qui n'en font pas forcément un but premier. Par contre, le fait de mettre en place l'holacratie, ça amène obligatoirement la question de la raison d'être à un moment donné. Et là, c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est un sujet qui est balbutiant dans la société. Alors, la loi Pacte, il y a quelques années, a introduit à ce vocabulaire de manière un peu plus courante que ce qui était le cas jusque-là. Donc, il y a plein de boîtes qui disent voilà, on a écrit notre raison d'être, c'est génial, tout ça. En fait, quand on regarde les raisons d'être, très souvent, les entreprises, elles ont écrit un slogan plutôt. Mais ce n'est pas grave, je pense que c'est un premier pas. Et c'est déjà bien de se poser la question. Parce que quand on va se poser la question plusieurs fois, on va se rendre compte souvent que la première version qu'on avait écrite pour une raison d'être, ben c'est peut-être pas la plus mature et on peut la mettre à jour, cette raison d'être. C'est-à-dire qu'à mesure que l'entreprise ou l'organisation mûrit, la conscience qu'elle a de son propre but, de sa propre finalité, peut mûrir aussi. Et je crois assez profondément qu'une raison d'être ne peut pas être nocive. C'est-à-dire qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont très clairement prédatrices et qui ne sont pas saines dans un écosystème humain. Et c'est quelque chose qui est très critiqué. Mais je pense que c'est le fait de travailler sur un but fait que forcément, à un moment donné, on va se poser des questions d'impact social, environnemental, sociétal, humain, etc. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ça quand on se pose la question de la finalité. Parce que finalement, la finalité, c'est quelque chose de lointain et qui va englober tous les impacts d'une organisation sur son écosystème. Donc, peut-être qu'à la fin de l'histoire, en termes de finalité, holacratie vient servir quelque chose de sain dans le monde, et y compris sur le plan des relations, mais ce n'est pas un prérequis pour répondre à ta question très directement.
En tout cas, j'entends...
Ça peut être une conséquence.
J'entends dans ce que tu dis que par le simple fait qu'elle pose comme une étape de la mise en place, de questionner quelle est la raison d'être, forcément ça va amener à se poser des questions qui vont être vertueuses par elles-mêmes au final. Il y a un peu ça.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que tu vois des limites à son utilisation ? Est-ce que ça peut avoir des effets collatéraux, indésirables ? Est-ce qu'il y a déjà eu entendu des critiques ou est-ce qu'on peut faire des critiques à cet outil-là ?
Je vais déjà répondre du point de vue de mon expérience et puis après de ce que je vois dans d'autres organisations. Chez nous, je crois qu'on est encore loin d'avoir touché les limites de ce système-là. Je pourrais même dire que après plusieurs années de pratique au quotidien, je n'ai même pas encore, je crois, la conscience d'avoir tout exploré. Et loin de là, j'ai l'impression encore de qu'être d'un espace très vaste, c'est-à-dire que il y a un potentiel dans ce système d'organisation dont je n'ai pas fait le tour. Alors, des fois, on a rencontré des difficultés avec certains processus, certains outils qu'on a pu avoir du mal à mettre en place ou qu'on avait peut-être mal intégré au départ et puis ça nous a demandé des ajustements. Et ça, je le mets plutôt dans la courbe d'apprentissage. Donc, pour moi, ce n'est pas une limite du système. Le fait que je n'ai pas touché les limites de système, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Ça veut dire que dans le monde comme il fonctionne aujourd'hui, je crois qu'il est plutôt bien adapté, notamment du fait qu'il soit intégratif. Et ça rejoint encore ton introduction sur les paradoxes, dans le sens où ça permet de faire cohabiter dans l'organisation des gens, des manières de fonctionner très différentes.
Est-ce que tu pourrais donner en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un système intégratif ? Donner une définition ou une illustration pour que l'auditeur comprenne bien.
Bien sûr, je vais prendre un peu des exemples. Il y a des systèmes qui sont qu'on pourrait appeler très normatifs, c'est-à-dire qui dans lesquels c'est la règle qui prime. Chacun fait ce qu'il doit faire parce que c'est comme ça. Et à la limite, on ne demande pas aux gens de se poser tellement des questions, mais juste d'être un peu des exécutants et de fonctionner selon des règles déjà écrites. Voilà, donc c'est un peu les systèmes dits administratifs ou très réglementés qu'on peut connaître dans des administrations publiques, dans l'armée, je ne sais pas, dans des systèmes comme ça. Après, il y a des systèmes qui, dans les entreprises un peu conventionnelles, qui sont plutôt dans une recherche permanente d'efficacité pour faire de la rentabilité et qui fonctionnent bien par certains aspects et qui ont des dégâts collatéraux par d'autres aspects. Et en fait, le fait d'avoir des systèmes qui sont intégratifs, ça permet à l'intérieur d'un même système d'organisation de cumuler les avantages de plusieurs aspects du fonctionnement d'un système. Par exemple, pour reprendre les deux exemples que je viens de donner, le respect des règles, je pense que ça a beaucoup de valeur. Je pense que c'est très intéressant de se donner des règles et de les respecter. C'est le fonctionnement de base d'un état de droit. Je crois que la dimension normative d'un système est vraiment importante. Donc, il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui ressemblerait à un respect de la règle, mais plutôt de prendre ce qui est sain dans le respect de la règle. Même chose dans la recherche d'efficacité. Je pense que c'est très sain d'avoir une certaine recherche d'efficacité parce que ça veut dire qu'on ne va pas, quelque part, avoir une surconsommation d'énergie pour faire des choses faiblement intéressantes pour l'organisation par rapport à son but. Donc, cette efficacité, ça peut être quelque chose de très sain si ça ne devient pas une fin en soi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que chaque mode de fonctionnement peut basculer dans un aspect dysfonctionnel. Et je pourrais prendre un troisième exemple, qui sont les organisations qui vont plutôt être fonctionner sur une recherche d'empathie, de vivre ensemble, et privilégier absolument l'humain, les sensations, les relations vécues dans cet écosystème qu'est l'organisation. Et qui peuvent parfois avoir des difficultés justement parce qu'elles ne sont pas assez efficaces, pas assez rapides. Et donc, l'idée avec Holacracy, c'est de permettre à toutes ces différentes facettes de cohabiter dans une même organisation, dans un même système. Tu as employé le mot de paradoxe pour ouvrir le podcast. Dans l'étymologie du mot, c'est intéressant parce qu'il y a para comme contre, hein, une chose qui fait le contraire d'eux, et doxa, qui est la doxa, c'est l'opinion. Et un paradoxe, c'est l'idée d'associer deux opinions qui sont d'apparence contradictoires. Mais justement, ce ne sont que des opinions et elles ne sont contradictoires que d'apparence, je crois.
Et pour terminer, est-ce que tu pourrais raconter une situation concrète qui t'a marqué dans ton entreprise ou chez les clients que tu accompagnes, au cours de laquelle tu as vu l'intérêt de cet outil pour améliorer la communication entre les humains ? Voilà, le petit souvenir marquant où tu t'es dit « Waouh, quand même, là, c'est vraiment aidant, quoi ».
Oui, il y en a beaucoup. Comment choisir un exemple ? Je me rappelle d'un exemple d'un codir qui découvrait le format de la réunion tactique et dans lequel il y avait un manager qui arrivait avec une tension très vivante et très forte envers le directeur général de la société et qui amène son point et qui vraiment... Il y a de la colère à ce moment-là, il y a de la tension, il y a plusieurs désaccords qui s'expriment autour de la table. Puis en fait, en facilitant la réunion tactique, en cédant justement des rôles, en différenciant les rôles, petit à petit, il y a une prise de conscience de à quel endroit exactement se situe la tension, de quels sont les rôles en jeu. Et puis finalement, on trouve une solution assez simple au problème qui est apporté. Et à la fin, en clôture, ce manager qui dit « Mais en fait, je viens de réaliser que j'étais énervé contre toi » en s'adressant à son directeur général, mais que ce n'était pas contre toi comme personne que j'étais réalisé, mais juste un de tes rôles qui, en fait, n'était pas encore explicité parce qu'on ne l'avait pas écrit dans notre gouvernance. Et du coup, il y avait une sorte de joie là, qui se dégageait après une réunion qui avait été tellement houleuse. Et c'était chouette de voir ça parce que finalement, ils avaient fait l'expérience en quelques minutes du bénéfice de la différenciation entre rôles et personnes. Parce qu'il y avait une super connivence finalement dans cette équipe de codir Simplement, ils avaient des tensions qui étaient liées à des rôles mal décrits, tout simplement.
Et dans ta propre entreprise, tu aurais un souvenir à raconter ?
Dans ma propre entreprise, c'est pareil, j'en ai beaucoup. Je vais essayer d'en choisir un qui soit un peu illustrant. Il y a des toutes petites choses qui sont vraiment des détails, mais ce qu'on appelle des accords relationnels qui permettent d'exprimer des attentes qu'on a entre personnes, justement, indépendamment de nos rôles. Et quand on a mis en place ces accords relationnels, on ne les avait pas au début, hein, on a mis en place ça il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Il y a des petits accords relationnels qui ont émergé, c'est-à-dire des demandes qui sont d'apparence pas très importantes, du type faire attention au ton, enfin, au volume de sa voix quand on parle dans l'espace de travail partagé. Et le fait d'avoir exprimé ces choses-là, ça a fait tomber des petits irritants qui étaient en fait présents au quotidien. Je ne sais pas si on s'en rendait vraiment compte, mais le fait de les avoir fait tomber, ça m'a permis de prendre conscience que c'était là. Alors même que, globalement, je vis dans une équipe dans laquelle on a des relations très apaisées et qui sont assez extraordinaires au quotidien. Voilà, donc ces accords relationnels, ça nous a permis de découvrir qu'on pouvait encore améliorer ça et encore aller traiter des petites choses qui traînaient.
Eh bien, Yosha, un grand merci pour ta participation. À bientôt.
Merci à toi. Merci pour ces questions. À bientôt.
Essentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur Radio South Afrique la première semaine de chaque mois, le lundi à 18h, le mercredi à 16h et le samedi à 14h. Retrouvez également l'émission sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify. Enfin, vous pouvez vous y abonner directement sur le site internet du podcast à l'adresse suivante podcast.osha.co/essentiel-le-podcast.